Jules Michelet. La sorcière. Chapitre 1. La mort des dieux. Certains auteurs nous assurent que, peu de temps avant la victoire du christianisme, une voix mystérieuse courait sur les rives de la mer Égée, disant « Le grand Pan est mort ». L'antique dieu universel de la nature était fini, grande joie. On se figurait que, la nature étant morte, morte était la tentation. Troublée si longtemps de l'orage, l'âme humaine va donc reposer. S'agissait-il simplement de la fin de l'ancien culte, de sa défaite, de l'éclipse des vieilles formes religieuses? Point du tout. En consultant les premiers monuments chrétiens, on trouve à chaque ligne l'espoir que la nature va disparaître, la vie s'éteindre, qu'enfin on touche à la fin du monde. C'en est fait des dieux de la vie qui en ont si longtemps prolongé l'illusion. Tout tombe, s'écroule, s'abîme. Le tout devient le néant, le grand Pan est mort. Ce n'était pas une nouvelle que les dieux dussent mourir. Nombre de cultes anciens sont fondés précisément sur l'idée de la mort des dieux. Osiris meurt, Adonis meurt, il est vrai pour ressusciter. Échille, sur le théâtre même, dans ces drames qu'on ne jouait que pour les fêtes des dieux, leur dénonce expressément par la voix de Prométhée qu'un jour ils doivent mourir. Mais comment? Vaincus et soumis aux titans, aux puissances antiques de la nature. Ici, c'est bien autre chose. Les premiers chrétiens, dans l'ensemble et dans le détail, dans le passé, dans l'avenir, maudissent la nature elle-même. Ils la condamnent tout entière, jusqu'à voir le mal incarné, le démon dans une fleur. Viennent donc, plus tôt que plus tard, les anges qui jadis abîmèrent les villes de la mer morte. Qu'ils emportent, plient comme un voile la vaine figure du monde, qu'ils délivrent enfin les saints de cette longue tentation. L'Évangile dit « Le jour approche ». Les pères disent « Tout à l'heure ». L'écroulement de l'Empire et l'invasion des barbares donnent espoir à saint Augustin qu'il ne subsistera de cité bientôt que la cité de Dieu. Qu'il est pourtant dur à mourir, ce monde, et obstiné à vivre. Il demande, comme Ézéchias, un répit, un tour de cadran. Eh bien, soit, jusqu'à l'an 1000, mais après, pas un jour de plus. Est-il bien sûr, comme on l'a tant répété, que les anciens dieux fussent finis, eux-mêmes ennuyés, las de vivre, qu'ils aient, de découragement, donné presque leur démission, que le christianisme n'ait eu qu'à souffler sur ces vaines ombres? On montre ces dieux dans Rome, on les montre dans le Capitole, où ils n'ont été admis que par une mort préalable, je veux dire en abdiquant ce qu'ils avaient de sève locale, en reniant leur patrie, en cessant d'être les génies représentant des nations. Pour les recevoir, il est vrai, Rome avait pratiqué sur eux une sévère opération, les avait énervés, pâlis. Ces grands dieux centralisés étaient devenus dans leur vie officielle de tristes fonctionnaires de l'Empire romain. Mais cette aristocratie de l'Olympe, en sa décadence, n'avait nullement entraîné la foule des dieux indigènes, la populace des dieux, encore en possession de l'immensité des campagnes, des bois, des monts, des fontaines, confondus intimement avec la vie de la contrée. Ces dieux, logés au cœur des chênes, dans les eaux fuyantes ou profondes, ne pouvaient en être expulsés. Et qui dit cela? C'est l'Église. Elle se contredit rudement. Quand elle a proclamé leur mort, elle s'indigne de leur vie. De siècle en siècle, par la voix menaçante de ses conciles, elle leur intime de mourir. Et quoi? Ils sont donc vivants? Ils sont des démons, donc ils vivent. Ne pouvant en venir à bout, on laisse le peuple innocent les habiller, les déguiser. Par la légende, ils les baptisent, les imposent à l'Église même. Mais, du moins, sont-ils convertis? Pas encore. On les surprend qui, sournoisement, subsistent en leur propre nature païenne. Où sont-ils? Dans le désert, sur la lande, dans la forêt? Oui, mais surtout dans la maison. ils se maintiennent au plus intime des habitudes domestiques. La femme les garde et les cache au ménage et au lit même. Ils ont là le meilleur du monde, mieux que le temple, le foyer. Il n'y eut jamais révolution si violente que celle de Théodose. Nulle trace dans l'Antiquité d'une telle proscription d'aucun culte. Le Perse, adorateur du feu dans sa pureté héroïque, put outrager les dieux visibles, mais il les laissa subsister. Il fut très favorable aux Juifs, les protégea, les employa. La Grèce, fille de la lumière, se moqua des dieux ténébreux, des cabires ventrus, et elle les toléra pourtant, les adopta comme ouvriers, si bien qu'elle en fit son Vulcain. Rome, dans sa majesté, accueillit non seulement l'Étrurie, mais les dieux rustiques du vieux laboureur italien. Elle ne poursuivit les druides que comme une dangereuse résistance nationale. Le christianisme vainqueur voulut, crut, tuer l'ennemi. Il rasa l'école, par la proscription de la logique et par l'extermination des philosophes qui furent massacrés sous Valence. Il rasa ou vida le temple, brisa les symboles. La légende nouvelle aurait pu être favorable à la famille, si le père n'y eût été annulé dans Saint-Joseph, si la mère avait été relevée comme éducatrice, comme ayant moralement enfanté Jésus. Voie féconde qui fut d'abord délaissée par l'ambition d'une haute pureté stérile. Donc le christianisme entra au chemin solitaire où le monde allait de lui-même, le célibat, combattu en vain par les lois des empereurs. Il se précipita sur cette pente par le monachisme. Mais l'homme au désert fut-il seul? Le démon lui tint compagnie, avec toutes les tentations. Il eut beau faire, il lui fallut recréer des sociétés, des cités de solitaires. On sait ces noires villes de moines qui se formèrent en Thébaïde. On sait quel esprit turbulent, sauvage les anima, leur descente meurtrière dans Alexandrie. Ils se disaient troublés, poussés du démon, et ne mentaient pas. Un vide énorme s'était fait dans le monde. Qui le remplissait? Les chrétiens le disent, le démon, partout le démon, ubique daemon. La Grèce, comme tous les peuples, avait eu ses énergumènes, troublés, possédés des esprits. C'est un rapport tout extérieur, une ressemblance apparente qui ne ressemble nullement. Ici, ce ne sont pas des esprits quelconques, ce sont les noirs fils de l'abîme, idéal de perversité. On voit partout dès lors errer ces pauvres mélancoliques qui se haïssent, ont horreur d'eux-mêmes. Jugez en effet ce que c'est de se sentir double, d'avoir foi en cette autre cruelle qui va, vient, se promène en vous, vous fait errer où il veut, au désert, au précipice. Maigreur, faiblesse croissante, et plus ce corps misérable est faible, plus le démon l'agite. La femme surtout est habitée, gonflée, soufflée de ses tyrans. Ils l'emplissent d'aura infernale, y font l'orage et la tempête, s'en jouent au gré de leurs caprices, la font pécher, la désespèrent. Ce n'est pas nous seulement, hélas, c'est toute la nature qui devient démoniaque. Si le diable est dans une fleur, combien plus dans la forêt sombre? La lumière, qu'on croyait si pure, est pleine des enfants de la nuit. Le ciel, plein d'enfer, quel blasphème! L'étoile divine du matin, dont la scintillation sublime a plus d'une fois éclairé Socrate, Archimède ou Platon, qu'est-elle devenue? Un diable, le grand diable Lucifer. Le soir, c'est le diable Vénus qui m'induit en tentation dans ses molles et douces clartés. Je ne m'étonne pas si cette société devient terrible et furieuse. Indignée de se sentir si faible contre les démons, elle les poursuit partout, dans les temples, les autels de l'ancien culte d'abord, puis dans les martyrs païens. Plus de festins, ils peuvent être des réunions idolatriques. Suspecte est la famille même, car l'habitude pourrait la réunir autour des lares antiques. Et pourquoi une famille? L'empire est un empire de moines. Mais l'individu lui-même, l'homme isolé et muet, regarde le ciel encore, et dans les astres, retrouve et honore ses anciens dieux. C'est ce qui fait les famines, dit l'empereur Théodose, et tous les fléaux de l'empire. Parole terrible qui lâche sur le païen inoffensif l'aveugle rage populaire. La loi déchaîne à l'aveugle toutes les fureurs contre la loi. Dieux anciens, entrez au sépulcre, Dieu de l'amour, de la vie, de la lumière, éteignez-vous. Prenez la capuche du moine. Vierge, soyez religieuse. Épouse, délaissez vos époux. Ou, si vous gardez la maison, restez pour eux de froides sœurs. Mais tout cela, est-ce possible? Qui aura le souffle assez fort pour éteindre d'un seul coup la lampe ardente de Dieu? Cette tentative téméraire de piété impie pourra faire des miracles étranges, monstrueux, coupables tremblés. Plusieurs fois dans le Moyen-Âge reviendra la sombre histoire de la fiancée de Corinthe. Racontée de si bonne heure par Phlégon, l'affranchi d'Adrien, on la retrouve au XIIe siècle, on la retrouve au XVIe, comme le reproche profond, l'indomptable réclamation de la nature. Un jeune homme d'Athènes va à Corinthe, chez celui qui lui promit sa fille. Il est resté païen et ne sait pas que la famille où il croyait entrer vient de se faire chrétienne. Il arrive fort tard, tout est couché, hors la mère, qui lui sert le repas de l'hospitalité et le laisse dormir. Il tombe de fatigue. À peine il sommeillait, une figure entre dans la chambre. C'est une fille, vêtue, voilée de blanc. Elle a au front un bandeau noir et or. Elle le voit, surprise, levant sa blanche main. « Suis-je donc déjà si étrangère dans la maison ? Hélas, pauvre recluse. Mais j'ai honte et je sors. Repose. Demeure, belle jeune fille. Voici Cérès, Bacchus, et avec toi l'amour. N'aie pas peur, ne sois pas si pâle. Ah, loin de moi, jeune homme, je n'appartiens plus à la joie. Par un vœu de ma mère malade, la jeunesse et la vie sont liées pour toujours. Les dieux ont fui, et les seuls sacrifices sont des victimes humaines. Et quoi, ce serait toi, toi, ma chère fiancée, qui me fus donnée dès l'enfance? Le serment de nos pères nous lia pour toujours sous la bénédiction du ciel. Ô Vierge, sois à moi. Non, ami, non, pas moi. Tu auras ma jeune sœur. Si je gémis dans ma froide prison, toi dans ses bras, pense à moi qui me consume et ne pense qu'à toi, et que la terre va recouvrir. Non, j'en atteste cette flamme, c'est le flambeau d'Hymen. Tu viendras avec moi, chez mon père. Reste, ma bien-aimée. Pour don de noces, il lui offre une coupe d'or. Elle lui donne sa chaîne, mais préfère à la coupe une boucle de ses cheveux. C'est l'heure des esprits. Elle boit, de ses lèvres pâles, le sombre vin couleur de sang. Il boit avidement après elle. Il invoque l'amour. Elle, son pauvre cœur s'en mourait, et elle résistait pourtant. Mais il se désespère et tombe en pleurant sur le lit. Alors, se jetant près de lui, « Ah, que ta douleur me fait mal! Mais si tu me touchais, quel effroi! Blanche comme la neige, froide comme la glace, hélas, telle est ta fiancée! Je te réchaufferai, viens à moi, quand tu sortirais du tombeau. Soupir, baiser s'échange. Ne sens-tu pas comme je brûle? L'amour les étreint et les lie. Les larmes se mêlent au plaisir. Elle boit altérée le feu de sa bouche, le sang figé s'embrase de la rage amoureuse. Mais le cœur ne bat pas au sein. Cependant la mère était là, écoutait. Doux serments, cris de plainte et de volupté. Chut! C'est le chant du coq, à demain dans la nuit. Puis, adieu, baiser sur baiser. La mère entre, indignée. Que voit-elle? Sa fille. Il la cachait, l'enveloppait, mais elle se dégage et grandit du lit à la voûte. Ô mère, mère, vous m'enviez donc ma belle nuit, vous me chassez de ce lieu tiède. N'était-ce pas assez de m'avoir roulée dans le linceul et sitôt portée au tombeau? Mais une force a levé la pierre, vos prêtres eurent beau bourdonner sur la fosse. Que font le sel et l'eau où brûle la jeunesse? La terre ne glace pas l'amour. Vous promites, je viens redemander mon bien. Las, ami, il faut que tu meures. Tu languirais, tu sécherais ici. J'ai tes cheveux, ils seront blancs demain. Mère, une dernière prière. Ouvrez mon noir cachot, élevez un bûcher, et que la menthe ait le repos des flammes. Jaillisse l'étincelle et rougisse la cendre, nous irons à nos anciens dieux.